Francis Bébé qui referme donc notre journal. Juan Gomez, appel sur l'actualité, c'est à vous.
Merci Sébastien Duhamel. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la Libre Antenne jusqu'à 9h temps universel. Et ce matin, vous êtes encore nombreux à nous appeler de Guinée pour réagir à la suppression de la commission électorale indépendante. C'est désormais un nouvel organe qui sera chargé d'organiser les élections et des échéances. Il y en aura déjà le référendum au mois de septembre et puis la présidentielle et législative censées mettre fin à la transition. Le problème pour certains, c'est que ce nouvel organe dépend directement du gouvernement. Ce nouvel organe, la DGE, Direction Générale des Élections, est sous la tutelle du ministère de l'Administration du Territoire et un certain nombre de partis politiques sont vent debout. Ils dénoncent un verrou militaire sur le processus électoral. Bonjour Mamadou.
Bonjour, vous allez bien, Ram?
Très bien, et vous-même?
Ça va, alhamdoulilah.
Ça va, vous dites que ça va, mais en même temps, vous êtes bien remonté, très en colère après la suppression de la CENI, si j'en crois les propos que vous avez tenus tout à l'heure au Standard.
Bien sûr. Écoutez, Juan, la suppression de la CENI et dire que maintenant le ministère de l'Action du Territoire doit organiser des élections, pour moi, c'est inadmissible. Dans la mesure où, aujourd'hui, il y a une relation de méfiance entre ces mêmes dirigeants de la France avec ce peuple. Et on sait que la CENI, déjà, par ailleurs, a eu des manquements, on est d'accord.
Oui,
mais il faudrait essayer de rétablir la CENI en ayant un organe dans lequel on peut retrouver les activités de la société civile, les partis politiques,
oui,
et bien sûr les cadres du ministère de l'Action du Territoire.
Donc on Mamadou, vous êtes en train de me dire on reprend les mêmes et on recommence. Vous critiquez la CENI, vous dites voilà, elle était contestée, mais en même temps vous êtes en train de me dire que la nouvelle instance doit finalement reprendre et commettre les mêmes erreurs.
Ce ne sont pas les mêmes erreurs, Juan. Écoutez, il faudrait redynamiser la CENI. Comment redynamiser la CENI? Le président de la CENI doit être nommé par appel d'offres. Si, par exemple, moi, je veux être président de la CENI, je dois postuler et sur la base de mes compétences, je vais être retenu. Donc, il ne faudrait pas répéter les mêmes erreurs. C'est comme le Sénat au niveau du Sénégal. Il faudrait une commission, un organe qui est là, qui est représentatif, que ce soit au niveau des jeunes, des femmes,
oui,
des partis politiques, des activistes de la société civile. Que cette commission ait une confiance des autorités. Et bien sûr, mais aussi du peuple, parce que les élections sont pour le peuple avant tout.
Et donc pour moi, pour vous aujourd'hui, cette direction générale des élections n'est qu'une façon pour les militaires d'essayer de frauder les prochaines élections.
Juan, c'est que je peux vous dire quelque chose. C'est comme si on organisait un match de football et on donnait l'arbitrage à l'une des équipes. C'est comme ça, cette direction pour moi.
Ouais, c'est vrai. Alors, cet exemple est souvent revenu. Hein. J'imagine qu'il circule beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est vrai que vous avez été très nombreux sur le compte WhatsApp de l'émission à nous dire c'est comme si on demandait à l'entraîneur d'une des deux équipes d'arbitrer le match. Madi Biné, bonjour.
Juan Gomez, bonjour à toute l'équipe RFI qui nous donne la parole et qui nous informe.
Et qui vous écoute, Madi Biné. Qu'avez-vous pensé de la suppression de la commission électorale?
Et d'abord, j'apprécie très sincèrement la suppression de cette CENI mafieuse sur le dos de l'État.
Mafieuse?
Mafieuse, disiez-vous. Depuis 2010, la Guinée a connu des violences systématiques par rapport aux élections. Le sabotage, le blocage. De chaque fois les revendications sur revendications contre la même CENI. Je crois bien mon confrère là, apparemment, excusez-moi du terme, il a des trous de mémoire. Les élections, les différentes élections en République de Guinée, chaque fois de 2010, il a fallu 3 ans pour organiser l'élection législative, 2013. Il y a eu des violences systématiques contre cette même CENI. C'est les mêmes auditeurs, c'est les mêmes citoyens, c'est les mêmes opposants qui critiquaient la CENI. Donc, si aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un président qui veut mettre les choses au rail et que de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé, je crois bien que c'est quelque chose qui doit être salué, que c'est quelque chose
oui,
qui doit
mais
être apprécié.
Madi Binet, vous savez bien que ce qui fait polémique, c'est le mode de désignation des membres de cette direction générale des élections, puisque le directeur général, son adjoint, ainsi que tous les responsables régionaux, préfectoraux et communaux, tous seront nommés par qui ? Par le président de la transition, le général Doumbouya, qui probablement sera lui aussi candidat à l'élection présidentielle.
Par le président de la République. Au Sénégal, tout le monde de la sous-région aujourd'hui, tout le monde, les mêmes opposants prennent l'exemple sur le Sénégal. Le Sénégal, qui nomme le ministre de l'Intérieur ? C'est le président. On a organisé les élections là-bas et c'est l'opposition qui a ramassé. Oui. En France, là-bas, en 2012, Nicolas Sarkozy était le président. Il a nommé le ministre de l'Intérieur. Il a organisé les élections. Il a perdu.
Oui, l'opposition oui. C'est vrai que dans plusieurs pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections sans qu'il y ait contestation. Bon, le débat est loin d'être clos. Madi Binet et Mamadou, on aura certainement l'occasion d'en reparler très vite sur l'antenne. En tout cas, merci à tous les deux de votre confiance. 10h45 à Paris, la Côte d'Ivoire, avec la création hier d'un front commun. PDCI, PPACI, ce sont les deux principaux partis de l'opposition. Ils s'unissent en vue de la présidentielle du mois prochain. Bonjour Mélagne.
Bonjour, Juan Gomez.
À Abidjan.
Oui.
C'est bien ça. Vous êtes satisfait, vous, de voir ces deux partis se rapprocher et tenter de peser sur le déroulement de ces élections ?
Effectivement, très très satisfait. Et puis c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Côte d'Ivoire actuellement où nous sommes. Pourquoi ? Parce que avec tout ce qui se passe, pour que le PSI et le PPACI soient unis. Et c'est ce qu'ils ont acté hier, c'est déjà bon. Ça va faire que le parti au pouvoir va revenir sur la table de discussion.
Oui. Mélanie, excusez-moi. On a du mal à vous comprendre. Je ne sais pas si vous avez une oreillette, si vous avez le téléphone trop près de la bouche, mais voilà, le réseau n'est pas bon. On va essayer de vous rappeler, évidemment, et faudrait qu'on parle de la Côte d'Ivoire, bien évidemment. En tout cas, je vous informe dès maintenant que ce sera le sujet de lundi. Hein. Lundi, on parlera de la Côte d'Ivoire. On verra si, durant le week-end, le président Alassane Ouattara aura mis fin au suspense. Sera-t-il candidat à l'élection du mois d'octobre ? Va-t-il briller un quatrième mandat. On en parlera lundi prochain. Galdimir, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour également à toute votre équipe technique administrative.
Merci de vos encouragements. Vous êtes à Kinshasa. Vous souhaitiez nous interpeller sur la décision du parquet belge de réclamer un procès pour faire toute la lumière sur l'assassinat de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise. C'est une bonne chose, disiez-vous au Standard, qu'il y ait un procès, qu'il puisse y avoir un procès.
Oui, on ne pouvait pas attendre mieux. Pour espérer mieux, symboliquement, ça va resituer les choses puisqu'on était dans les tumultes sur la mort de Lumumba. Tantôt au niveau interne, on disait que c'était de politique ou l'armée comme Mobutu qui avait commandité sa mort. Mais avec ce procès-là, peut-être ça va éclairer un peu l'opinion, non seulement congolaise, mais aussi internationale, sur les raisons de la mort de Lumumba, les conditions de sa mort. Moi, je dis que c'est une très bonne chose, même si sur les terrains ici, Lumumba est presque inaudible, en dehors de gens comme Kassim Dono Kanda, qui en parle presque chaque semaine,
oui.
Mais le lumumbisme, on ne le sent pas. Donc le procès là, c'est bien arrivé.
Oui.
Ça arrive
attendez, là, vous allez un peu vite en besogne, Galdimir, c'est vous, parce que vous dites que le procès arrive au bon moment. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura procès. Le parquet fédéral souhaite qu'il y ait un procès. J'ai cru comprendre que la chambre du conseil qui devait donc statuer, décider cette semaine si les charges étaient suffisantes pour ouvrir un procès, finalement on aura une réponse qu'au mois de janvier, le 26 janvier 2026 oui. Pour être précis.
Oui, patience et longueur de temps font plus que force mi-clairage. On attendra, mais ce serait mieux que l'option réellement d'un jugement, d'un procès ait lieu pour pouvoir nous donner des éléments, notamment à une jeunesse aujourd'hui qui est perdue, qui ne connaît pas très bien,
évidemment,
ou trop bien l'histoire de ce pays.
Et en savoir davantage sur la responsabilité des différents acteurs de l'époque. Hein. Les Américains, pour dire rapidement les choses, ont parrainé ces événements. Les Belges ont soutenu. Il y avait le groupe Mobutu qui a commandé et le groupe Tshombe qui a exécuté. Bon, maintenant, il va falloir un jour connaître effectivement la vérité. En tout cas, il nous reste qu'un seul suspect en vie. Il a 92 ans, il s'appelle Étienne d'Avignon et peut-être que c'est lui qui devra affronter la justice. Un dernier mot, Galdimir, ou vous avez dit l'essentiel?
Le dernier mot, c'est que le lumumbisme, c'est une bonne chose, mais c'est souvent, les actions viennent de l'extérieur. En interne, je ne vois pas, je ne sens pas réellement le soutien de lumumbisme. Quand on voit des partis comme le Palou, qui parlent plutôt de Kizenga que de Lumumba, oui. Quand on regarde les enfants Lumumba qui n'interviennent pas, il y a quelqu'un d'extérieur, j'ai cité son nom en passant, qui aujourd'hui, au quotidien, travaille, pense, se réveille avec le nom de Lumumba. Il s'agit de Kassende Onokanga.
Bon, on va pas... en passant. D'accord, mais en tout cas, ce que vous regrettez, c'est que finalement, il ne reste plus grand-chose de Lumumba aujourd'hui. En tout cas, voilà.
Oui. Exactement. Bon, c'est pour ça, moi, j'appelle à ce que ce procès ait lieu.
Oui, et puis il faut aussi appeler la jeunesse à se replonger dans les écrits, les discours de Lumumba, discours nationalistes qui ont marqué évidemment la fin des années 50 et le tout début des années 60 à l'époque le Zaïre. Merci Galdimir. Bonne journée à Kinshasa. 10h51 à Paris, c'est la Libre Antenne. 33 9 693 693 70. Vous avez été quelques-uns à rebondir à un débat que nous avons eu cette semaine concernant le Mali, puisque sur place, un projet de loi accorde au général Assimi Goïta un mandat présidentiel de 5 ans. Il va donc pouvoir rester 5 ans sans élection, renouvelable jusqu'à la pacification totale du pays. Pour dire simplement les choses, pas d'élection au Mali tant que la paix ne sera pas de retour. Bonjour Idrissa.
Bonjour Oran Gomez.
Vous êtes à Tombouctou et vous nous disiez que cette décision, en tout cas elle n'a pas encore été prise, hein, c'est un projet de loi, il faut qu'il soit adopté par le CNT. En tout cas pour vous c'est clairement un braquage du pouvoir.
Oui effectivement. En effet Oran Gomez, arrivé au pouvoir à la suite d'une contestation populaire, bon nombre de Malais avaient fondé l'espoir sur les militaires. Mais force est de constater que depuis fort longtemps, ces militaires-là sont en train de caporaliser le pouvoir et ils règnent en maître absolu, en violation de tous les textes de la République du Mali. Et imaginez-vous, Oran Gomez, et quelques ministres se regroupent et on décide maintenant d'accorder 5 ans supplémentaires à un président et à un homme qui est venu à la suite d'un coup d'État. Oui. Depuis quand a-t-on vu cela dans un pays?
Mais en même temps, ça ne vous a pas échappé que c'est une recommandation des Assises nationales. Théoriquement, ce sont les forces vives du pays qui se sont réunies, qui ont discuté, qui ont fait des recommandations. Et l'une d'entre elles, c'est justement d'accorder un mandat présidentiel de 5 ans sans élection renouvelable indéfiniment.
Mais Oran Gomez, non, ces Assises dont vous parlez là, quelle a été la condition d'abord? Mais on a regroupé quelques individus seulement dans un bureau climatisé et qu'ils avaient déjà presque les conclusions tirées même d'avance.
Ouais, donc les gens qui ont participé à ces assises n'étaient pas représentatifs de la nation et ils ne représentaient qu'eux-mêmes, en tout cas au moins le pouvoir. Non mais c'est vrai que beaucoup d'opposants ont boycotté ces assises. Un dernier mot Idrissa, parce qu'il y a un de vos compatriotes qui souhaite prendre la parole sur ce sujet.
Bon, moi je pense que vu la situation actuelle, le militaire serait mieux maintenant de rendre ce pouvoir et retourner vraiment à leur travail qui est la sécurisation du pays.
D'accord, bah voilà, c'est votre conclusion, que Goïta retourne dans les casernes pour sécuriser le pays. Assedou, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bonjour Assedou, dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous avez découvert ce projet de loi?
Écoutez, moi je suis optimiste, hein. Je suis optimiste quant à la bonne foi et l'engagement des autorités actuelles pour carrément réformer en profondeur, hein. Le pays, tous les problèmes que nous traversons, ça fait déjà une dizaine d'années, surtout le problème sécuritaire qui a participé à une déliquescence, à un déplacement massif des populations. Il y a des endroits qui sont devenus des zones de non-droit. Mmh. Hein, nous avons ici vécu des moments d'insécurité permanente, alors même que nous étions dirigés par un pouvoir démocratiquement élu.
Donc vous êtes en train de nous dire...
Avec une présence militaire accrue.
Oui, mais donc c'est assez doux, assez doux. Assez doux. Vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas organiser d'élections, vu le contexte sécuritaire.
Vu le contexte sécuritaire aussi, vu cette dynamique de refondation enclenchée, hein, Et n'oublions pas que c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont contre cette prolongation et cette révision de la charte, mais nous avons une grande partie aussi des populations maliennes qui ont participé à des assises, qui ont participé à des rencontres pour proposer tout cela, pour qu'on puisse sortir de manière définitive dans cet état d'insécurité permanente et de vide juridique.
Assez doux, ça ne vous semble pas paradoxal qu'aujourd'hui on ne puisse pas organiser une élection au motif que la situation sécuritaire est trop instable, alors qu'il y a 2 ans, quasiment à la même période, jour pour jour, pour dire les choses, votre pays organisait un référendum constitutionnel?
Oui, mais ça, c'est
donc ça
toujours,
veut dire quoi que
toujours...
depuis la situation s'est dégradée alors, la situation sécuritaire.
C'est toujours des participations, c'est toujours des rencontres participatives. Hein. Et quand on avait organisé ces réformes institutionnelles, tout le monde y était. Je pense que même les partis politiques jadis qui sont contre toutes.
Oui, mais vous répondez pas à ma question.
Aujourd'hui, étaient partants.
C'était pas ma question.
Donc,
là, c'est dommage.
Les élections peuvent s'organiser une fois nous sommes dans une situation de sécurité est assez établi, maîtrisé, les élections peuvent s'organiser. Pour l'instant, je pense que le programme sera établi par les autorités actuelles de concertation avec les populations maliennes.
D'accord. Bon, ben on suivra ça. Merci beaucoup à vous, Assedou, bonne journée. Remercie également Idrissa. Il y avait Edmond qui patientait au standard et qui souhaitait prendre la parole. Malheureusement, Edmond... Bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je m'excuse également auprès d'Alpha Ibrahima en région parisienne, de Glody à Dakar. Et pourquoi je la remercie? Parce que j'ai favorisé Jean-Marc. Il est à Yaoundé. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous m'avez envoyé cette semaine un message de mécontentement. Hein, je vous cite, hein, mon message, vous avez exprimé, dites-vous, votre indignation, votre frustration relative à la non-couverture par RFI d'un événement sportif majeur et mondial qui se tient depuis le 4 juin jusqu'au 24 juin à Yaoundé, au Cameroun. Et cet événement majeur, eh bien, c'est le championnat du monde de jeux de dames. Et vous-même, Jean-Marc, vous êtes ancien vice-champion du monde.
Oui, ancien vice-champion du monde 2013, et je dirais que c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole. C'est la première fois que j'interviens sur vos antennes. Vraiment, je suis honoré parce que je suis un fidèle auditeur depuis ma tendre jeunesse. Ça fait une quinzaine d'années déjà. Oui. J'écoute toutes les émissions naturellement.
Jean-Marc, voilà, profitez-en pour nous parler du jeu de dames et de ce championnat du monde. Vous disiez au standard que le jeu de dames est plus pratiqué en Afrique que dans le reste du monde.
Tout à fait, dans la plupart des pays francophones. Et moi, j'ai toujours dit, je suis très surpris, on parle de francophonie des peuples et autres. Voilà une discipline qui est pratiquée à part entière. Nous, on s'inscrit dans le vocable des disciplines sportives de l'esprit. Alors, depuis le 24, vous l'avez dit, le 4 juin dernier, se tient à Yaoundé le 5e championnat du monde individuel de jeux de dames seniors, toute catégorie, avec tous les pays des 4 continents représentés. Oui. Le champion du monde en titre, Jan Groenendijk des Pays-Bas, et là, il est grand maître international. Moi-même, je le suis depuis 2002. Et j'ai été quand même surpris que RFI, la chaîne mondiale, la chaîne des 100 voix, ne couvre pas cet événement.
Ben voilà.
Polycarpe et Songakoure, Joël Wadel, mais ils doivent venir ici couvrir cette histoire pour rendre compte.
Bon.
Et donc,
vous nous avez écrit, je me disais que c'était évidemment important de vous donner la parole et qu'on en parle. La finale est prévue donc le 24 juin, si j'ai bien compris.
Tout à fait, le 23, c'est un système championnat.
Oui.
En fait, il y avait 40 joueurs au départ, répartis dans 4 groupes de 10 joueurs par groupe. Il fallait être parmi les 3 premiers de chaque groupe pour passer dans la phase finale. On a une phase finale de 12 joueurs et tout le monde se rencontre. Le 23 au soir, on aura donc l'épilogue avec les un classement général.
Bon, bah j'espère que dans la dernière édition d'Afrique soir ou et même le matin, le lendemain, on pourra donner le nom du vainqueur du championnat du monde de jeu de dames. Merci infiniment, Jean-Marc Jofong, c'est votre nom de famille puisque vous êtes ancien vice-champion du monde. Merci de nous avoir interpellés. Bah voilà, ça sert aussi à ça la Libre Antenne, à vous donner la parole sur des sujets qui ne font pas forcément la une de l'actualité internationale. Merci à tous de votre fidélité, de votre confiance, de vos encouragements. On sera de retour lundi, 8h10, temps universel, vos questions à la rédaction. Et en deuxième partie, je vous le disais tout à l'heure, nous parlerons de la présidentielle au Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara sera-t-il candidat? Va-t-il briguer un quatrième mandat? Va-t-il mettre fin au suspense? On devrait en savoir un peu plus dans le courant du week-end.
PAC au pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour soutenir ses proches au pays vous a proposé appel sur l'actualité.